France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. C'est du côté de la Saône-et-Loire que nous avons glané des initiatives, de bonnes idées, comme d'habitude des solutions. Belle illustration aujourd'hui avec une société de production audiovisuelle dont la particularité de porter un cahier des charges très écologique, tant par ses méthodes de travail que par les clients qu'elle choisit. Et puis direction Alençon pour la prochaine inauguration du premier campus dédié au domicile de demain. Notre lieu de vie a subi beaucoup de transformations à l'image du télétravail conditionné par la crise sanitaire. Nous en parlerons tout à l'heure avec Marie-Béatrice Levaux.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Séverine Baudot, bonjour.
Bonjour Philippe.
Séverine, ravi de vous avoir en ligne. Vous nous avez envoyé un courrier. Alors, il y a deux temps dans ce courrier. Je mentionne le premier parce que j'en profite quand même. C'est votre compagnon Guillaume qui a un diplôme, un brevet en maraîchage bio en particulier et qui cherche un lieu pour développer sa production du côté de chez vous à Saint-Romain-sous-Gourdon, c'est ça?
Oui, tout à fait. Guillaume, il est à moitié maraîcher, à moitié pilote de drone. Donc, en effet, on cherche parce que c'est quand même pas facile de trouver du terrain en Saône-et-Loire. C'est pas si facile.
Oui.
Et du coup, on cherche, si c'était possible, 2 hectares minimum et si possible 10, histoire d'avoir plus de place, mais un peu de terrain pour cultiver des légumes, c'est l'objectif de Guillaume, oui.
Alors, Guillaume pilote les drones de votre agence d'éco-production audiovisuelle, Another Vision, une autre façon de voir. Ce qui m'intéresse, c'est que non seulement vous choisissez les sujets en fonction et en correspondance avec votre éthique, et surtout vous utilisez des méthodes de travail qui correspondent à cette éthique, à savoir limiter le gaspillage.
Bah exactement. Alors, c'est vrai que, en fait, déjà, ça commence en effet par les choix des clients. On a des clients qui sont quand même déjà engagés, qui nous permettent du coup d'amorcer la discussion directement avec eux. Et puis après, dans toutes les étapes de la production de visuel, il y a la pré-production, c'est-à-dire là, on est au bureau, 2 à 3 personnes, et du coup, bah, comment on fait pour ne pas tout le temps imprimer. Donc, ça, c'est des choses un peu que tout le monde peut faire finalement. Et puis après il y a la production, donc là c'est un peu plus compliqué en général, parce qu'il faut faire un peu du covoiturage, pour plutôt prendre le train. C'est une démarche qui permet de sensibiliser aussi les autres, et ça c'est sympa aussi, parce que et puis du coup on passe aussi plus de temps avec les autres.
De toute façon, quand on est dans la production audiovisuelle, le premier matériel est numérique.
Exactement, et du coup ça, par exemple sur le numérique, c'est quand même le sujet, c'est en train de devenir quand même un sujet vraiment important. Si tous les producteurs audiovisuels de France ne s'interrogent pas là-dessus, et on se retrouve avec des problèmes. J'aimerais que tout le monde s'interroge là-dessus.
Ouais. Donc vous choisissez vos clients, ça peut être l'agence Erasmus Plus France, la région, j'ai vu l'office franco-allemand pour la jeunesse, et puis d'ailleurs avec l'Allemagne, vous avez réalisé un film sur des ateliers BMW, alors les ateliers de voitures connectées, on parle de demain, et puis vous avez décidé de vous lancer dans une plus large collaboration en créant un club d'entrepreneurs.
Oui, alors en fait, on est dans un club d'entrepreneurs de l'économie, de la fonctionnalité, de la collaboration. Le mot sonne un peu compliqué, mais en fait, ce n'est pas du tout. C'est vraiment pour réfléchir en profondeur sur la manière dont on fait les choses. Parce qu'en fait, moi, j'étais partie d'un constat, c'était pourquoi on fait les choses. Pourquoi on produit des vidéos, pourquoi on produit autrement même des flyers, et qu'est-ce que les clients vont en faire. Et puis finalement, personne ne regarde. Ou je vous donne un autre exemple, des lives. En ce moment, c'est la mode des lives. Sauf que pour faire un live, il faut beaucoup de monde, beaucoup de techniques, beaucoup de ressources matérielles. Et puis en fait, le live, vous mettez le live en route et finalement, il y a 3 personnes qui regardent. Et nous, on est déjà 5 ou 4 en régie et personne ne regarde. Et ça, c'est hyper frustrant. Enfin, moi, je trouve ça hyper frustrant. Alors bien sûr, il y a toujours des collègues qui vont dire « mais on s'en fiche, on est payé ». Je dis « ben oui, mais non, mais c'est pas ça l'intérêt. Il faudrait peut-être plutôt discuter avec les clients. Pourquoi est-ce qu'il veut un live ? Est-ce qu'il veut un live juste parce que c'est la mode ? Dans ce cas-là, ou est-ce que c'est pour le contenu ? Dans ce cas-là, ça va peut-être plus c'est peut-être plus intéressant de faire une sorte de peut-être un documentaire ou des interviews un peu poussées avec derrière ça des explications plus complexes. Je trouve ça vraiment passionnant. Mmh. Et le fait qu'on soit en club, le fait qu'on soit avec d'autres entrepreneurs qui sont pas du tout du même métier. D'ailleurs, il y a un maraîcher, il y a un jardin de cocagne de Haute-Saône. on a des visions transverses. Là, pour l'instant, c'est vraiment en train de révolutionner, en tout cas, la manière de penser la vidéo et penser le travail. Et ça, vraiment, il faut prendre du temps à discuter avec les clients et avec aussi les collègues, les autres intermittents, parce que naturellement, le système capitaliste, on va dire classique, le système industriel, il pousse à la consommation excessive des ressources. Et on va dire, si on prenait juste l'intérêt pur et dur à notre vision au niveau du chiffre d'affaires, on pourrait se dire, il faut faire. Ouais, mais et donc faire plus de live, par exemple. Sauf qu'en fait, c'est pas ça dont on a besoin.
Vous êtes convaincante et on partage votre point de vue. Another Vision ou anothervision.fr, ça c'est l'adresse. Et puis je rappelle pour Guillaume, si du côté de Saint-Martin, sous Gourdon, on est au sud de Montceau-les-Mines, il y a un terrain qui pourrait recevoir son activité de maraîchage bio et d'agroforesterie, il n'y a aucun souci. Prenez contact avec l'équipe d'Another Vision. Merci Séverine.
Merci Philippe.
France Inter. Carnet de campagne.
Aurélie a bien fait de nous écrire. Elle dirige un ESAT qui appartient à la PEP 71 PEP. Cela me donne l'occasion de vous parler du mouvement PEP, des pupilles de l'enseignement public. Ce mouvement fondé sur la solidarité et la laïcité intervient auprès de personnes touchées par la précarité, l'exclusion sociale ou le handicap. L'association de Saône-et-Loire, qui dispose de plusieurs points d'ancrage en département, s'attache à apporter son aide aux enfants, aux jeunes, aux adultes et puis aussi aux familles frappées par la maladie, le handicap ou qui rencontrent des difficultés sociales. La PEP 71 a édité d'ailleurs une charte de développement durable qui s'accorde avec la situation actuelle de nos sociétés en luttant contre les pollutions et ses effets sur notre environnement et sur notre santé. Ce programme s'appuie sur trois postulats: la précaution en identifiant les facteurs de pollution afin d'agir en amont, la responsabilité, à savoir assumer notre part de responsabilité sans rejeter systématiquement la faute sur les industries, puis enfin la solidarité en s'alignant sur les enjeux qui concernent les générations futures comme les pays en voie de développement. Alors concernant le pôle ESAT dirigé par notre correspondante Aurélie, il accueille 120 personnes dont une majorité souffre d'un handicap psychique. Ce service d'aide par le travail permet souvent à ces personnes de retrouver une place. On en a déjà évoqué beaucoup d'exemples dans l'espace social. Il propose plusieurs activités dont un restaurant, la sous-traitance industrielle, la gestion des espaces verts, un atelier d'horticulture et de maraîchage et une ressourcerie. Fin de citation. Son courrier se termine par cette note d'espoir. Nous comptons chaque année des insertions en milieu ordinaire de travail dont nous sommes plutôt fiers et on la comprend. Le site c'est pep71.org. Marie-Béatrice Leveau, bonjour.
Bonjour.
Marie-Béatrice, avec vous on va parler des usages du domicile, de l'évolution des rôles aussi domicile. Vous êtes présidente entre autres de la Fédération des particuliers employeurs de France. Un petit rappel, 3 400 000 particuliers concernés, 12% des ménages en France, pour 1 400 000 salariés, ça pèse lourd. Alors ça c'est les chiffres de 2019, j'ai envie de vous demander, mais depuis le confinement, les chiffres ont dû augmenter.
Alors déjà depuis le confinement, les chiffres n'ont pas baissé, parce qu'on aurait pu aussi imaginer que toute cette période où chacun est rentré chez soi, eh bien le besoin d'accompagnement pouvait se réduire. Donc il y a eu une période un peu compliquée de quelques semaines, et finalement, nous avons fait plusieurs sondages, nous avons travaillé profondément sur l'évolution des comportements des ménages pendant cette période, et tout le monde a repris avec beaucoup de rapidité d'ailleurs, dès fin août, six comportements d'emploi à domicile déclarés, et on a une tendance à la hausse qui commence à se faire jour. Donc ça prouve bien que pour les ménages français, à partir de son budget familial, on a trois enjeux: épargner quand c'est possible, consommer et employer. Et c'est vraiment devenu depuis une dizaine d'années au cœur des préoccupations quotidiennes des ménages français. Et vous l'avez dit, il y a un 12%, un Français sur 5 et particulier employeur l'a été ou va l'être.
Vous êtes donc à l'origine de la création d'un lieu, alors là, les bras m'en sont tombés, j'ai dit, ah bon, c'est possible, ça existe, à Alençon, une université du domicile.
Oui, absolument, c'est un travail de très longue haleine que nous avions commencé en 2014. À l'époque, nous avions porté une conférence de consensus autour de la question « Le domicile, enjeu sociétal majeur ou dérisoire ?» Et à l'issue de cette conférence de consensus, nous était apparu, et bien avant évidemment la période que nous vivons actuellement, que les usages des enjeux du domicile étaient en train d'évoluer de manière profonde et que finalement, il n'y avait pas d'espace pour à la fois lier la recherche, l'observation de ces nouveaux comportements au domicile, de ces nouvelles questions d'habitat, habitat partagé, cohabitat, toutes ces questions qui finalement sont arrivées relativement récemment. Et puis ça s'est accéléré avec la question du télétravail que nous on avait commencé à regarder il y a 5 ans maintenant.
Oui, mais
finalement, c'est ça le sujet aujourd'hui.
Oui. Oui, le domicile du 21e siècle, c'est le domicile où l'on a un espace privatif et un espace professionnel.
C'est un domicile augmenté, le domicile du 21e siècle, en fait. C'est un domicile augmenté de plusieurs situations. C'est le domicile au cœur des transitions du 21e siècle. La première transition, c'est la transition démographique. On voit bien que le domicile accueille de manière extrêmement profonde l'envie de vieillir et même de mourir à domicile. Les gens ont envie de rester le plus longtemps possible chez eux. Alors un chez eux amélioré ou un chez eux transformé, mais en tout cas un chez eux. Le deuxième sujet, c'est évidemment les transitions numériques. Le domicile est connecté avec le monde et ça a été la véritable expérience de tous les habitants du monde de s'être réfugiés à leur domicile parce qu'il y a eu l'injonction à rester chez vous. Et que pendant tout ce temps long, cette prise de conscience que le domicile finalement, il répondait à autre chose que simplement y dormir, y manger, faire un peu de ménage et avoir une activité très privative. Il s'est retrouvé connecté au monde. Les gens ont commencé à travailler à partir de leur domicile. Il y a une énorme modification sur la manière dont les gens identifient le télétravail, par exemple. On voit bien toute progression du domicile connecté, connecté avec le monde à partir de chez soi et à chez soi, évidemment, y compris très rural, sous réserve que les politiques publiques aillent très vite pour connecter la France à un minima en 4G, ou en tout cas avoir des dispositifs de fluidité de ce côté-là. Puis le troisième enjeu, c'est évidemment la transition climatique. Finalement, les habitants du domicile sont en train, sans le savoir, d'acquérir de nouvelles compétences.
Étonnant, cette université du domicile, qui est pas, c'est pas un laboratoire fermé, c'est un lieu de vie. C'est-à-dire, il est conçu comme un lieu de vie comme à la maison. Il y a des salles de formation, mais il y a aussi une cuisine, cuisine pédagogique. Il y a un salon bibliothèque. Il faut toujours de la culture autour de soi. Un espace de coworking, un jardin en permaculture et des logements. L'inauguration est toute prochaine, l'inauguration officielle le 26 novembre. Et merci beaucoup pour cette initiative.
Et... merci à vous et nous l'espérons en présence de la ministre du Travail et de l'Emploi, Elisabeth Borne.
Toujours en Saône-et-Loire, j'ai sous les yeux le courrier de Julie. Or, je prends un petit peu d'avance. Je cite, je suis élève de terminale de la MFR de Mazire, vers Cluny. Nous organisons le vendredi 3 décembre, un marché gourmand et artisanal. J'aimerais savoir si vous pourriez diffuser l'information SVP. Ben voilà, Julie, c'est fait. Peut-être que je le referai quand même avant le 3 décembre parce que c'est un petit peu tôt. Aujourd'hui, un mot sur la maison familiale rurale du Clunisois, qui a deux filières. Une filière commerce, une filière agri-élevage. Elle fait partie de ce réseau étonnant de formation par apprentissage qui est vraiment une sacrée réussite en France. La première a été créée en 1937. Il y a 520 associations, 520 maisons familiales rurales. Plus de 65 000 jeunes et adultes sont en formation, 250 000 maîtres de stage, 8 000 administrateurs et plus de 8 000 salariés. Et ça marche, j'allais dire, du feu de Dieu. Et c'est un peu le cas sur les résultats, puisque à la suite de l'obtention des diplômes, les jeunes sont très souvent aussitôt engagés dans la vie active.